Jésus. C'est l'un des messages que j'ai préparé le plus longtemps. Ce n'est pas une question de temps. Je voulais tellement transmettre le cœur de Dieu. Et sans exagérer, je crois que j'ai dû le préparer au moins 7 fois 24 heures. Et ce n'est pas le contenu qui... juste dans les mots, mais j'ai prié, prié et reprié pour que ça soit vraiment la substance. Et je vous encourage vraiment juste à ouvrir vos cœurs. Et vous me connaissez, il y a des moments où je peux m'exciter. Mais qu'au-delà de l'excitation, que vous puissiez vraiment saisir la substance, au-delà de mes fautes de français, de comment je m'exprimais, juste dire, est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble par la foi? Vous ne savez pas ce que je vais vous demander, mais fermez vos yeux, juste répétez après moi, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je suis là parce que j'ai envie que tu me parles. Je t'ai loué, je t'ai adoré. Merci pour la nourriture que tu as préparée pour moi. Amen. Le titre de ce message, c'est Dieu te prépare à être un préparateur. Alors, je vais souvent dire préparateur, mais pour les féministes, préparatrice. Voilà, je l'ai dit une fois, ça m'évitera, peut-être je vais alterner ou pas. Mais quand je dis préparateur, c'est aussi, ça concerne aussi les femmes. Amen. Et mon but ce matin, c'est réellement que nous puissions croire que Dieu a un but. Rien que ça, je peux m'arrêter. Dieu a un but. Et peu importe ce qu'on vit, peu importe la saison dans laquelle on est, peu importe ce que je traverse, ne pense jamais que Dieu a perdu son but, que Dieu n'a pas marqué. Dieu marque toujours son essai et Dieu poursuit toujours un but. Et ce que tu vis en ce moment, même si j'ai envie de dire c'est à cause de tes choix, même si j'ai envie de dire tu as l'impression de subir et tu es victime, est-ce que c'est trop fort pour vous ou pas? C'est bon le son? Ok. Même si tu as l'impression que c'est trop fort et que tu subis les choses, j'aimerais réellement t'encourager dans l'introduction de ce message. Et c'est ça le cœur et le but du message. J'aime bien quand Dieu me donne une pensée, je dis Seigneur, c'est quoi le but? Et Dieu me dit, dis à mon peuple que je poursuis un but. Je poursuis un but dans ta vie. Je poursuis un but avec toi, Église M. Je ne sais pas ce que tu penses, mais Dieu poursuit un but dans ta vie. Dieu est en train de faire une œuvre en toi et au travers de toi. Et ce qui est fou, c'est que parfois, avec nos yeux, on ne le voit pas. Et j'aimerais même m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'aimerais même m'adresser à toi qui n'as même pas encore donné ton cœur à Jésus. J'aimerais m'adresser à toi qui n'est même pas encore engagé, qui n'est pas encore baptisé. J'aimerais m'adresser à toi qui est chrétien de longue date. J'aimerais m'adresser à celui ou celle qui a l'impression que ça fait des années même qu'il connaît le Seigneur, mais qu'en ce moment même, je ne sais pas ce qui se passe. Et hier, on avait une réunion avec des pasteurs de la région, de différents endroits. Chacun se présentait. Et chacun devait dire ce que Dieu apprenait là. Enfin, ce que Dieu était en train d'enseigner. Et on m'a demandé de me présenter, bien sûr, Romari Ganga, homme fort et puissant. Ça, c'était fait. Et ensuite, j'ai dit, vous savez quoi? Comme dirait un philosophe, tout ce que je sais en ce moment, c'est que je ne sais rien. Mais plus que mes convictions sont ébranlées, plus mes fondements sont enracinés. Parce que, en fait, même quand je ne comprends pas et quand tout semble être secoué autour de moi, je sais une chose, Dieu a un but. Et je sais une chose, que Dieu est en train de faire quelque chose en moi et au travers de moi. Et parfois même alors que je suis dans l'incompréhension totale, et parfois même alors que je ne comprends pas ce qui se passe et que j'ai du mal à analyser ma vie ou analyser parfois la saison de l'église ou analyser la saison des uns des autres. Mais je sais une chose, quand je dis au nom de Jésus, quelque chose se passe. Quand je prie, quelque chose se passe. Quand je plante et quand je sème, je ne vois peut-être pas encore la racine, je ne vois peut-être pas encore le germe, je ne vois peut-être pas encore le rejeton, mais je sais qu'il y a un écosystème. Je sais qu'il y a un écosystème qui fait en sorte que quelque chose est en train de se passer et Dieu est à l'œuvre. Regarde la personne à côté de toi et dis à cette personne, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu ne le réalises pas, mais en ce moment même, Dieu est en train de travailler pour toi. Dieu est en train de travailler pour toi. Dieu te prépare. Matthieu 11, 9, 10, et c'est d'où vient mon texte, mon thème. Et c'est Jésus qui parle. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et c'est juste hallucinant, rapidement pour présenter le contexte. Jean est à ce moment-là en prison. Il envoie ses disciples pour aller demander à Jésus. Lui, il est en prison et il commence à douter. C'est lui qui avait dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un a besoin d'entendre. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'avait reconnu. Mais en prison, alors qu'il est emprisonné pour son message, il commence à douter. Il se dit, mais est-ce que Jésus, c'est vraiment celui qui doit venir? Et il envoie ses disciples poser la question à Jésus. Est-ce que réellement, Jean demande si c'est toi? Et Jésus va dire, mais les boîtes marchent. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Le royaume de Dieu s'est approché. Quelque part, il est en train de dire, mais il n'y a que le Fils de Dieu qui peut faire ces choses. Il répond à cette question, mais il va encore aller plus loin. Imaginons, mettons-nous un peu dans ce contexte. Si vous êtes convaincu d'une chose et que vous commencez à douter de la personne et que vous allez même voir cette personne et dire, mais est-ce bien toi? Je ne te reconnais pas. Alors que Jean est dans cet état, Jésus, lui, il va faire des éloges à Jean. C'est quand même assez spécial. C'est dans ce contexte de doute, c'est dans ce contexte où Jean est comme perdu. Il dit, ok, Jésus est venu, moi je croyais qu'il allait bouleverser Israël et peut-être établir un gouvernement humain, je ne sais pas ce que je pensais. Moi-même, moi qui ai parlé de lui, moi qui ai parlé de Jésus, je me retrouve en prison. Moi qui commençais à témoigner, moi qui commençais à m'engager, moi qui me suis peut-être baptisé, je me retrouve dans une situation, je prie, j'élève ma voix et rien ne se passe. Je suis en prison, je suis comme enfermé par des circonstances, par des situations que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas quoi faire, je ne comprends plus ce Dieu que j'ai suivi. Je ne comprends plus ce Dieu que je prie, je ne comprends plus ce Dieu que j'ai cherché pendant longtemps. Je suis en prison. Alors que je suis dans cet état, alors que je questionne Dieu, alors peut-être même que je vois mon responsable d'église dans la maison. Je dis, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais voir mon ami, mon meilleur ami. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. J'appelle le pasteur Omar. Je ne sais pas ce qui se passe. Dieu m'a-t-il abandonné? Es-tu celui qui doit venir? Est-ce que Jésus est réellement la solution des solutions? Dans ce contexte-là, j'insiste là-dessus. Jésus, témoin de Jean-Baptiste. Il va dire, vous savez quoi? C'est une manière de parler, hein, que vous ne soyez pas choqués. Ce gars-là, c'est pas n'importe qui. J'aimerais parler à quelqu'un en ce moment. Tu doutes, et peut-être tu ne crois même pas. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et peut-être que tu es en train de devenir incrédule même. Jésus te regarde et dit, tu sais quoi? Cet homme-là, cette femme-là, en parlant de Jean-Baptiste, va dire, on vous a dit que c'est un prophète. Ben oui, c'est un prophète. Mais je veux vous dire une chose, c'est plus qu'un prophète. Quoi? Jésus, tu fais un compliment à quelqu'un qui est en train de douter? Dans la culture juive, il y avait le prophète et le prophète. Après Dieu, le prophète. Jésus crée un niveau supérieur. Jésus crée un niveau supérieur pour Jean qui est est en train de douter. Il va dire, il y a plus qu'un prophète. Pour toi qui doutes, c'est quoi Seigneur, je doute et tu me... Il y a une promotion. Ça c'est l'évangile de la grâce. Pour toi qui as péché, il y a une promotion. Quoi? Oui, il y a une promotion. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Même si ça n'existe pas en français, Jésus, la Bible l'a inventé. Et il y a des mots comme ça dans la Bible qui ça voudrait rien dire. L'abondance, c'est déjà pas mal. Mais la surabondance, c'est quoi? Quand c'est déjà abondant, c'est pas mal. Mais la surabondance. Mais parce que Dieu crée des choses, des promotions, des niveaux de dimensions qui n'existent pas. Pour nous attirer, pour nous faire comprendre l'immensité de son amour, l'immensité de sa gloire. Donc je reviens à Jean-Baptiste. Le gars est en plein doute. Le gars ne sait même plus qui est Jésus. Et Jésus lui dit, vous savez ce gars-là, je vous dis, vous le connaissez comme prophète, mais c'est plus qu'un prophète. Et je vais vous donner un niveau supérieur. Nous sommes dans des temps où des jeunes, des moins jeunes, des églises, et vous le savez, j'aime le prophétique. Et parfois on croit que le prophétique, c'est... Oh. Jésus va dire, il y a plus que le prophétique. Il y a être préparateur. C'est-à-dire, quand tu acceptes que, et que tu captes, que tu comprends que Dieu, peu importe ce que tu vis, et peu importe ce que tu as fait, et que Dieu va à travers ta vie te préparer pour être en bénédiction pour quelqu'un d'autre, tu es plus qu'un prophète. Et je dis ceci, Dieu m'a donné ce message pour l'église, pour chacun de nous, pour que chacun de nous, nous puissions comprendre que peu importe ce qu'on a fait, peu importe notre passé, peu importe là où on est rendu, peu importe que si je me compare à telle église, si je me compare à tel ministère, si je me compare à tel frère, si je me compare à telle sœur, peu importe, Jésus est en train de me dire, Romaric, tu es plus qu'un prophète, tu es un préparateur. Wow! Je vous avais dit que j'allais m'exciter. J'avais annoncé. Tes doutes n'affectent pas la vision que Dieu a pour toi. Ne laisse pas la prison te définir ou te rétrécir. Ah, ne laisse pas la prison te définir ou te rétrécir. Laisse Jésus te définir. C'est Jésus qui te définit. Ne laisse pas les circonstances te définir. Ne laisse pas ce que tu vis te définir. Jésus, je ne comprends rien. Ok, ça c'est un fait. Tu as le droit de le dire. Jésus, Jean-Baptiste l'a dit. Mais ne laisse surtout pas ces questions te pousser à dire et à croire que parce que tu te poses tellement de questions que tu n'es plus rien, que tu ne vaux plus rien, que Dieu ne veut pas faire quelque chose avec toi. Non, Jésus dit, c'est un préparateur. C'est un préparateur. C'est une préparatrice. Et on va voir ce que ça veut dire exactement. Et j'aimerais réellement que tu comprennes que tu es choisi pour être un élément important dans le processus de quelqu'un d'autre. Ce que tu vis en fait, c'est Dieu qui travaille à travers toi. Et si, encore je le redis, même quand c'est à cause de tes choix, si tu te laisses faire, Dieu va faire en sorte que tu deviennes plus qu'un prophète, qu'une prophétesse, que tu vas devenir une préparatrice, c'est-à-dire une personne que Dieu va choisir pour être en bénédiction à la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je dis, Dieu, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Nous avons besoin de réaliser trois choses concernant un préparateur. Je vais définir maintenant, c'est quoi un préparateur, une préparatrice. Un préparateur est un précurseur. Il est dit... Jésus va dire, j'envoie mon messager devant ta face, c'est-à-dire devant toi, avant toi, pour préparer le chemin. C'est-à-dire, le précurseur, c'est celui qui vient en avance. C'est celui qui est avant. Il est envoyé en avance pour préparer le cœur du peuple. Tu es devant. Et quand tu te laisses faire, Dieu veut faire de toi un préparateur pour que même tes échecs puissent être des leçons de succès pour quelqu'un d'autre. Oh. Je parlais avec des jeunes prédicateurs hier et je leur disais, avant, comme homme fort et puissant prêchait, il expliquait pourquoi dans tel domaine il avait du succès. Aujourd'hui, comme homme fort et puissant, conseil, il explique aux gens pourquoi il a échoué. Et comment faire pour que tu ne échoues pas. Comme je me suis laissé corriger par Dieu, je ne suis plus regardé comme un pécheur. Je suis regardé comme un préparateur. Mes échecs servent à votre bénédiction. Là où je suis tombé, toi tu vas être relevé. Là où j'ai échoué, toi tu vas réussir. Pas parce que Dieu dit c'est bien de pécher, parce que Dieu dit la leçon apprise du péché fait de toi que je crée une dimension supérieure. Tu étais dans la boue du péché, je te place au-dessus du prophète. Tu deviens un préparateur. Ah, applaudis et dis gloire à Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Ne mesure jamais ton succès uniquement en fonction de ce que tu penses avoir réussi. Mesure ton succès. Comprends que le vrai succès, c'est aussi ce que tu as empêché d'arriver et ce que tu as permis de se produire alors que tu as accepté d'être devant. Vous savez, celui qui est devant va faire beaucoup d'erreurs. Nous, on voit le succès comme ce que j'ai réussi en termes de victoire. Mais le succès, c'est aussi ce que j'ai empêché à travers mes erreurs, à travers mes fautes, à travers mes lacunes, parce que j'ai appris et j'empêche les autres de faire les mêmes. C'est pour ça que Jésus dit, waouh, Jésus dit, non, moi je ne regarde pas au doute. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Jésus savait, mais comprenez, exactement, on ne sait pas toujours ce qui se passe exactement dans la vie des uns et des autres. Ne mesure pas ton succès par ce que tu vois, mais ce que tu as permis à ce que d'autres puissent voir. Il y en a qui doivent le relire plusieurs fois. Ne mesure jamais ton succès avec ce que tu vois. Et ça a été une libération pour moi. Quand je commençais à comprendre ça, remarque, mesure ton succès avec ce que tu as transmis. Je bénis Dieu tout à l'heure. Moi, j'aime les actes prophétiques, vous le savez. Je suis rentré, j'étais dans ma prison là-bas et je suis venu, je ne sais plus pourquoi, je suis venu vite fait. Et j'ai vu Manu en train de ranger les câbles. Moi, Dieu me parle souvent comme ça et Dieu m'a visité clair, cache, tac. Et j'aimerais vraiment qu'on honore un précurseur. Fabien est responsable de louange parce qu'il y a un homme avant. Il y a une équipe qui est là, qui font comme ils peuvent, hein, les câbles. Ok, ça c'est dit. Mais il y a d'autres qui ont travaillé dur avant. Et on coule toujours à travers la vie de ceux qui ont été devant, qui ont mal fait. Parfois c'était compliqué, parfois c'était dur, parfois on disait qu'est-ce qui se passe, parfois on fait un son spontané. On fait des spontanés aujourd'hui parce qu'il y a un homme qui s'appelle Manu Petrakian qui a commencé à faire des spontanés. Comprenez? Fabien peut libérer tout ce qui est, il y aura d'autres chants qui vont venir, des nouveaux chants, parce qu'il y a un précurseur qui a dit, on peut chanter des chants d'autres, mais on peut aussi être compositeur. Et le chant « J'aime ta présence, je me souviens », c'est un préparateur dans une réunion d'équipe qui le compose, et il le compose pour une réunion d'équipe, et à ce moment-là, on ne se dit pas que ça sera l'un des chants marquants de l'église M. Vous comprenez ce que je dis? Il y a toujours quelqu'un, et tu es là parce que, et je suis là parce que quelqu'un a versé des larmes pour moi. Parce que quelqu'un a prié pour moi, parce que quelqu'un allait me récupérer quand je péchais, parce que quelqu'un a fléché les genoux quand j'étais découragé. Tu es là parce que il y a quelqu'un. Tu es là parce qu'il y a une grand-mère qui prie pour toi. Tu es là parce qu'il y a une amie qui prie pour toi. Tu es là parce qu'il y a des responsables de jeunes qui prient pour toi. Tu es là parce qu'il y a des pasteurs qui parfois qui sont dans la nuit, qui sont réveillés, qui prient pour toi. Tu es là. Oh oui, c'est sûr que si on mesure le succès avec ce qu'on voit, toi tu vas voir que tu es en bonne santé, que tu vas au travail, que tu as passé ta journée. Moi, je ne veux même pas le voir. Ce qui est normal pour toi est un succès dans l'esprit. Parce que tu es allé travailler avec la force, parce que j'ai payé le prix le soir. Parce que tu es là, parce que j'ai intercédé. Et je livre un message, les prédicateurs qui livrent des messages. Pas parce que c'est juste une prédication d'une demi-heure, mais parce qu'ils ont payé le prix. Pour certains, c'est un mois de préparation. Tu es là parce qu'il y a un préparateur. C'est pourquoi Jésus dit, mais moi, ce n'est pas le prophète que j'admire. J'admire celui qui se laisse préparer. J'admire des précurseurs comme Manu. J'admire des précurseurs comme toi. J'admire tes précurseurs. Tu es un préparateur. Tu es une préparatrice. Et ça me touche. Et accepte le rôle ingrat d'être un précurseur. Parce que tu as une pièce du puzzle, du plan global de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Pièce de puzzle. Il y a une équipe qui s'appelle Prière, qui va dans les rues depuis 7 ans. Tous les 15 jours au moins, dans les rues de Toulon. Quand on remercie ici, et je ne dis pas ça parce qu'ils cherchent le remerciement, je veux juste qu'on comprenne qu'il y a toujours quelqu'un derrière. En fait, il y a toujours quelqu'un qui te back dans l'esprit. Quand on vient ici, quand on fait les célébrations, on dit « Ah, merci la louange, merci le prédicateur » et qu'on est un peu touché, « Merci celui qui fait les chants » et qu'on est un peu touché, « Merci ceux qui sont en bas pour les enfants. » C'est très rare qu'on dise prière. Ils ne demandent pas ça. Mais vous ne savez pas qui change l'atmosphère, qui prie pour qu'on soit là, prie pour que les choses se passent bien, qui prie pour la ville, pas que pour nous, pour les autorités. Le succès, c'est aussi ce que Dieu permet que l'on empêche. Nous voyons trop le succès pour ce que l'on gagne, mais nous empêchons plein de choses. Hein. Le jour où il y avait des manifestations là, dans toute la France, je crois qu'on avait tué quelqu'un, enfin, ou blessé, enfin, il y a eu plein de trucs. Non, c'était pour, les jeunes à elle. Et il y a eu des Marseilles, j'entendais. Et ce n'est pas à propos de moi, parce qu'il n'y a pas que moi. Je me suis levé, ça fait 2 fois que ça se produit. Je me suis levé, j'ai dit, je ne permets pas, avec l'autorité qui m'a été donnée dans la ville de Toulon, qu'il y ait des cassages, cassures, brises, pas moi, des casseurs. Je ne permets pas. J'envoie des messages à des intercesseurs, on se lève, on prie. Les journaux avaient des messages clairs. Céline travaille à la mairie. C'était quasi. Ils avaient des renseignements clairs que la cité Berthe, enfin bref, il y avait des endroits stratégiques, il y avait des choses qui allaient se passer. On a refusé ça. On est dans ce territoire, on a préparé, on a empêché. Ça, c'est quoi? C'est pas. On n'a pas fait un communiqué. Il y a plein de choses comme ça. Seigneur, aide-nous. Je prie que vos yeux s'ouvrent. Vous puissiez comprendre, il y a quelqu'un à côté, quelqu'un derrière. Mais surtout aussi que vous puissiez comprendre, je suis cette personne. Et c'est pour ça que je suis grand. C'est pour ça que je ne suis pas n'importe qui. Je prépare le chemin et Dieu m'appelle à préparer le chemin. Deuxièmement, un préparateur est un défricheur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En fait, un défricheur, c'est celui qui enlève les obstacles, coupe les mauvaises herbes et rend le terrain prêt. Il va couper. Et Jean-Baptiste est là. Et Jésus l'admire, dit, mais lui, il est venu en avance pour défricher, pour dire, repentez-vous, changez de voie. Donnez votre cœur à Jésus. Et j'aimerais te dire qu'en tant que défricheur, si tu acceptes vraiment le plan de Dieu, et si tu te remets entre les mains de Dieu, en tant que défricheur, ton obstacle d'aujourd'hui peut être un tremplin pour quelqu'un d'autre demain. En fait, c'est ton attitude qui fera la différence. J'ai dit, ton obstacle d'aujourd'hui va être un tremplin pour quelqu'un d'autre. Ton péché d'aujourd'hui, parce que tu t'es repenti, va être le tremplin pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en tant que défricheur, il y a des obstacles, on va affronter des obstacles. Il commence à dire, ok Seigneur, je me suis ramassé, mais j'aime tellement les autres, j'aime tellement là où tu m'as placé, mais ça me permettra que d'autres ne se ramassent pas. Et ce n'est pas un secret que je suis remarié. Et je le dis haut et fort. Je me bats comme jamais lorsqu'un couple a des difficultés. Certains vont dire, mais tu n'es pas crédible. Jésus me dit, tu es un préparateur. Jésus va dire, parce que tu es passé par là, tu es plus qu'un prophète. Tu peux expliquer. Parce que tu as été un défricheur. Ne laisse pas ce que tu as vécu dans le passé te faire croire que tu deviens moins que rien. Mais commence à saisir la main de Dieu qui te dit, mais en fait, même dans ton passé, j'ai fait en sorte parce que tu te laisses faire. Et si tu te laisses faire, tu vas devenir ce défricheur qui va commencer à lever des obstacles dans la vie d'autres personnes. Là où l'ennemi a voulu t'écraser, toi tu seras comme un tremplin. Les gens vont venir s'appuyer sur toi, bam, ils vont sauter, ils seront là-haut. Ah, Église M, je parle à l'Église M. Il y a eu des obstacles, il y a eu tellement de combats qu'on a vécu. Mais j'aimerais parler à l'Église M. Là où tu as levé des obstacles, les gens vont venir s'appuyer sur toi. Et parfois je dis, Seigneur, il y en a qui viennent, qui ont même de super boulot. Je me dis, la dîme va augmenter. Et quand ils ont un super boulot, ils partent ailleurs. Ils déménagent. Oh, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, ils vont dans d'autres églises. Oh, mais le Seigneur m'a dit, mais accepte que l'église M est un tremplin pour d'autres. Ça, c'est le succès. Oh, Seigneur, aide-nous. Tout n'est pas à propos de toi. Dieu te prépare à accompagner d'autres à surmonter ce qui entrave leur relation avec le Seigneur. Tout n'est pas à propos de moi. Je suis beau, je suis costaud. Mais tout, Romaric, n'est pas à propos de moi. Tu chantes bien, Fabien, mais tout n'est pas à propos de toi. Et c'est la même chose quand on vit des galères. Parce qu'on vit des galères, on croit que tout est à propos de nous. C'est nous qui souffrons. Mais si un jour tu as fait cette prière, Seigneur, je vais être ton instrument. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie l'épreuve. Mais Dieu va dire, ok, tu avais dit que tu veux être mon instrument. Mais tout n'est pas à propos de toi. Comme tout n'est pas à propos de toi, un jour tu accompagneras des personnes qui ont des défis pour se déplacer, qui ont des défis financiers. Un jour tu accompagneras des personnes qui, peut-être à cause d'une injustice, à cause d'un papier qui n'a pas été bien rempli, tu galères financièrement parce que tout n'est pas à propos de toi. Tu es un préparateur. Tu es une préparatrice. Et tu es plus qu'un prophète. Il y en a qui disent, mais je n'ai pas de ministère. Sois un préparateur, c'est déjà pas mal. Oh, je ne sais pas quel don que tu as. Quel don? Travaille ton attitude et tu seras plus qu'un ministère. Travaille ton attitude. Collabore avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Et tu vas voir que tu vas être un tremplin. Dieu va se servir de toi. Combattons toute forme d'égoïsme, d'écocentrisme. Et aide quelqu'un à devenir quelqu'un d'autre. Il y a un égoïsme dans les épreuves. Hein? Parfois on souffre, on pense qu'il n'y a que nous qui souffrons. C'est réaction humaine. Mais quand je commence à croire qu'il y a plus que moi, qu'il y a des gens qui sont autour de moi, quand je commence à croire que si je me laisse transformer, c'est une descendance, c'est un héritage, c'est une transmission. Mon attitude se transmet. Mes victoires se transmettent. Mes victoires en termes d'attitude se transmettent à une génération, de génération en génération, se transmettent autour de moi. Et là, c'est juste, waouh, je suis un défricheur. Il y a des obstacles, il y a des combats là. Je suis là, mais je défriche pour les autres. Oh, parce que je défriche pour les autres. Les gens venus, c'est autoroute. Tu sais pourquoi il y a d'autres endroits, tu as l'impression de courir sans faire... pas grand-chose. Parce qu'il y en a d'autres qui ont défriché. Quand tu prends l'autoroute, là, ouais, c'est vrai, tu payes un peu. Hein. D'autres ont travaillé avant. Et dans la vie, dans l'esprit, c'est la même chose. J'aimerais, quand je préparais là, fais une parenthèse, mais c'est connecté. Ce que je suis en train de faire cet après-midi, c'est que nous puissions comprendre que le naturel est une représentation de ce qui se passe dans l'esprit. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on élève notre vision des choses, qu'on voit ce qui est spirituel, pour réellement accepter et vivre ce qui est dans le naturel. Le problème, c'est que nous avons tellement une vision naturelle des choses, on oublie que Dieu est en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus glorieux et beaucoup plus profond. Et ça nécessite du courage, de la persévérance, une grande dose d'amour. En fait, pourquoi on n'accepte pas nos saisons? Je vais un peu confronter, tranquillement, panique pas. Claude, je comprends ça, te voir tendu là. Détends-toi. Je t'embête. Pourquoi on refuse nos saisons? On manque d'amour. Beaucoup de choses sont connectées à l'amour. Si j'aime plus les autres, je me dis, ok, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je serai un instrument de bénédiction pour quelqu'un. Je serai un instrument. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai tellement hâte d'apprendre et d'aller témoigner. Combien mon Dieu est bon. Combien mon Dieu m'a délivré. Je pense à une situation en ce moment même. Oh. Alors que si tu trouves cette situation complètement injuste, tu pourras témoigner. Je ne connais pas l'issue de l'injustice dans ce problème immobilier et financier. Mais j'aimerais te dire que tu pourras témoigner de la grandeur, de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Tu pourras témoigner de l'amour de Dieu. Ne regarde pas à tes circonstances et surtout, ne regarde pas à ton problème. Tu as fait de ta vie un instrument de gloire. Tu as fait de ta vie un témoignage. Tu témoignes, tu pries pour les gens, mais laisse cette situation toucher les cœurs de ceux qui ne croient pas. Et je décrète et déclare que dans cette situation, ta situation, des cœurs seront touchés, des cœurs vont venir à Jésus parce que tu auras l'attitude et que ton attitude parlera. Ton attitude parlera. Et je pense à Anne, pour ceux qui ne connaissent pas, Anne, c'est la maman d'un prophète qui s'appelle Samuel. Un jour, elle pleurait dans le temple. Il y a un autre homme, un sacrificateur qui vient le voir, un prêtre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, homme de Dieu, pasteur, appelez-le comme vous voulez, prêtre. Mais, non, et cet homme pensait qu'elle était complètement saoule. Pourquoi tu es saoule? Elle dit, mais non, c'est pas ça. Ta servante était juste en train de prier parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Waouh, quelle attitude. Il aurait pu dire, attends, quel discernement cet homme. Attends, moi je souffre, je suis dans la misère. Il ne l'a pas envoyé bouler. Hein? Avec beaucoup d'humilité et de respect. Non, je ne suis pas saoul. Je déverse mon âme. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. Son attitude a parlé plus que ses heures de prière. Et là, l'homme de Dieu a dit, oh ben écoute, l'année prochaine à la même heure, à la même époque, tu auras un enfant. Pour une question d'attitude. Elle a prié toute une nuit. Mais parce qu'elle a eu la bonne attitude. Parfois, c'est compliqué d'avoir la bonne attitude. Hein? Mais on est en chemin, pas de panique. Dernier point. Un préparateur est un serviteur. Jean va dire, Jean le Baptiste, pour qui Jésus a dit c'est plus qu'un prophète. À un moment donné, il va venir vers Jésus. Enfin, il va dire de Jésus parce que les disciples disent, mais voilà ce qui se passe, Jésus. Il y a des grandes choses qui se passent. Vous voyez, il y a telle église, ça marche super. Il y a tel groupe, waouh. Il y a tel musicien, il a fait un single, des millions de vues. Il y a tel Facebook, il y a plein de followers. Waouh, 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 waouh. Et Jean va dire que je puisse avoir 10 followers. Et les autres des millions. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Parce que c'est une question du royaume. C'est une question du plan global. Wow. Le but, écoutez bien, c'est pas si ça à l'écran, mais c'est pas mal ce que j'écris. Le but de ta vie n'est pas uniquement que tu croisses, mais que tu fasses croître. La meilleure manière de mesurer notre croissance, écoute bien, est notre manière de faire grandir les autres. Et c'est ça le discipulat. Jésus n'a pas dit, et ça j'en parlerai un jour, Jésus n'a pas dit aller bâtir des églises. Hein. Je suis pour l'église. Jésus a dit aller faire des disciples. Ce n'est pas la même chose. On a tellement voulu bâtir des églises qu'on a oublié de faire des disciples. Parce que la meilleure preuve de croissance, c'est quand tu commences à transmettre et à faire en sorte que quelqu'un d'autre grandisse. Notre véritable grandeur réside dans notre capacité à servir les autres et à les élever. Oh, je bénis Dieu pour les chaussures. Ils vont être gênés. Allez, permettez-moi que vous soyez gênés quelques instants. Je vous donne une bonne adresse. Vous êtes fatigué, il y a une piscine chez eux. C'est bon ça. C'est quand ça ne te concerne pas. Non, mais je dis ça à la rigolade. Mais pour ceux qui ont bénéficié par la grâce, je leur disais, mais ils ont un don d'hospitalité de ouf. Parfois, vous voyez certains. Nous, cette année, on n'a pas profité. Bon, j'ai glissé ça comme ça, mais on en a profité. On a laissé les autres profiter. On ne nous a pas demandé non plus. Parfois, vous pouvez voir des personnes qui sont tellement reposées, tellement sereines, tellement bien le dimanche, parce qu'ils sont passés chez les chaussures. Vous ne le savez pas. Parce qu'ils ont offert, ils ont mis à disposition leur piscine. Parce que Jacques et Alix ont fait des petits plats, parce qu'ils ont entouré avec beaucoup d'amour. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été et ils sont des instruments pour élever d'autres. Les autres vont venir ici, ils vont prêcher ou ne vont pas lâcher l'appel parce qu'ils sont chez les chaussures. Ils sont dorlotés, chouchoutés. C'est des héros. Est-ce qu'on peut acclamer ces héros? Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Parce que Dieu est en train de te préparer pour élever les autres. Ne pense jamais que Dieu t'a oublié. En fait, Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses élever les autres. Et quand tu comprends ça, tu dis, Seigneur, ok, c'est compliqué, c'est dur. Et vous savez, et c'est l'un des aspects du ministère, parce que le ministère concerne la personne. Le ministère, ce n'est pas ce que je fais là. Le ministère, c'est que quand j'ai donné ma vie, quand j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, je veux te servir. Ce n'est pas je veux faire quelque chose pour toi. Je veux que tout ce que je vis puisse être un message. Comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va permettre et Dieu sera là. Et même lorsque l'ennemi attaque, pour que je puisse être un instrument pour élever les autres. Et j'aimerais adresser un message vraiment prophétique à l'église. C'est hyper... Si nous comprenons ça, il y a tellement de frustration qu'on ne va plus vivre. Ce n'est pas la méthode juste pour voir les bons côtés des choses. Hein. Ce que je vous dis, c'est vraiment de la substance que Dieu m'a donnée et un message pour l'église. Église aime. Église aime. Tu es appelé à élever d'autres. Tu es appelé, pas toujours, et à briller comme tu penses. Et bien souvent, tu brilles dans l'esprit, dans l'obscurité, pour permettre à d'autres églises, à d'autres ministères, à d'autres personnes de briller dans le naturel. Ne regarde pas ta brillance naturelle. Mais regarde ce que Dieu dit. Et quand je dis église, et pour ceux qui sont de l'église, pour ceux qui sont connectés à cette église, du coup, ça vous affecte. Et le piège et le tort, c'est de mesurer les saisons et le bien-être des gens en fonction de ce qu'ils font de manière visible. Ça, c'est la mentalité du monde. Ce n'est pas la mentalité de Dieu. Dieu mesure ce que l'on est et l'attitude qu'on relâche et comment on fait pour élever les autres. Ne pense pas que Dieu t'a oublié, je le redis. Il est en train de te préparer pour élever les autres. Jésus ne sera pas toujours élevé par ce que tu fais, par ce que tu prêches, parce que tu joues, parce que Jésus sera élevé par ton attitude. Jésus même est levé par ta repentance. Parce que tu es en train de dire, ah, moi je connais quelqu'un que peu importe ce que tu as fait, quand tu viens à lui, il t'accepte. Jésus est levé par ta persévérance. Ah, je connais mon Dieu, c'est compliqué. Je partageais ça avec une soeur. Mais ce que tu vis, oui, Dieu ne t'a pas guéri. Parfois on croit qu'il n'y a que le témoignage de guérison qui glorifie Dieu. Et je ne dis pas que Dieu ne glorifie pas, mais la persévérance dans la maladie est en train de dire, mon Dieu est tellement bon avec moi que je persévère. Et ça, ça l'élève. Et ça, ça le glorifie. Et ça, je m'adresse aux mamans seules. Oh, Shakarabayas. Je m'adresse aux mamans seules. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Et j'aimerais honorer les mamans seules. Et j'aimerais honorer Suzanne. Écoutez ce témoignage. Il y a quelque temps, je me suis cogné et j'ai une douleur et bosse au front. Au repas du soir, mon fils me fixait le front et je l'ai expliqué à mes enfants que maman s'est fait mal au front. C'est pour ça que j'avais une bosse. Quand mes enfants se font mal ou sont malades, je leur impose les mains où ils ont mal et je prie. Cette fois-ci, en entendant que je m'étais cogné, le réflexe de mon fils de 3 ans a été de poser sa main sur mon front et de dire « Jésus guérit bobo maman. Amen. » Il s'est remis à manger. J'ai souri et on a poursuivi le repas le temps de se coucher. Au réveil le lendemain matin, jour où j'avais rendez-vous important et où je craignais d'arriver avec un front gonflé, ma surprise a été de constater que la bosse avait été résorbée et que j'avais quasi plus de douleur. J'ai témoigné à mon fils que, et à sa sœur, pardon, témoin de cette scène, que ma bosse était partie et que j'allais mieux. Je crois, dit Suzanne, que par le simple geste d'imposer les mains et prier pour mes enfants, quand ils sont malades, je les prépare à avoir des automatismes pour exercer l'autorité lorsqu'ils sont confrontés à la maladie, à la douleur, des bosses sur le front. Est-ce qu'on peut acclamer une préparatrice? C'est pas facile. Et j'aimerais honorer Edith. C'est pas facile, les mamans seules sont là le soir après le travail en train de s'occuper des enfants. Mais j'aimerais vous dire que votre attitude, votre persévérance est en train de préparer une génération d'enfants qui vont dire « Je n'ai pas été abandonné. Je n'ai pas été abandonné. Je n'ai pas été abandonné. Ma maman a payé le prix. Ma maman m'a préparé. » Nous avons des préparateurs, des préparatrices. Arrêtez d'aller juste voir des prophètes et de dire « Homme de Dieu, homme de Dieu ». Allez voir des mamans seules et dire « Femme de Dieu ». Et dites « Tu es une femme de Dieu ». Céline Colombo, tu es une femme de Dieu. C'est des plus que des prophétesses. Caramaya, caramaya. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Ouvre nos yeux, que nous voyons ce que tu fais. Un préparateur est un serviteur, une servante. Que Dieu nous rende capable de dire, je vais vers la fin. Que Dieu nous rende capable de dire, il faut que je diminue et que Marc grandisse. Une de mes prières, ceux qui me connaissent savent, le jour où vous aurez l'impression que Romaric Ganga s'accroche au ministère, à l'église M, venez me voir, je vous en supplie. Ne permettez jamais que je cherche la gloire en écrasant les autres. Une des choses, pourquoi je ne prêche qu'une fois. Et pour ceux qui me voient, le pasteur Mathieu souvent me dit, mais toi tu es une machine à prêcher. Pour ceux qui me savent, je peux prêcher tous les dimanches, sans prétention. C'est une grâce que j'ai. Je peux prêcher tous les dimanches. Mais pourquoi on fait prêcher d'autres? Parce qu'il faut qu'on diminue et qu'ils croissent. C'est la vraie réussite. C'est le vrai ministère. Que ce soit en tant que précurseur, défricheur, serviteur, nous avons tous un rôle à jouer dans l'ombre. Écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu es en arrière-plan que tu n'es pas dans le plan. En fait, ça parle aux artistes. Qui est peintre, artiste, comme Odile ici? Ah. Parfois, nous sommes dans le flou artistique. Et moi, j'aime bien avec les iPhones, on peut faire ça maintenant. On peut flouter. Mais quand tu floutes, c'est pour mettre en valeur quelque chose d'autre. La photo est plus belle avec un flou arrière. Parce que les yeux se braquent sur l'élément essentiel. Et je prie, Église M, que tu acceptes d'être dans le flou parfois, pour que d'autres brillent. Je prie que nous ayons et que nous acceptons le flou que parfois que Dieu nous impose pour que le nom de Jésus soit élevé. Je prie que dans ta vie, que tu acceptes parfois des saisons où tu es dans le flou. Et je disais, je reviens à ça parce que c'est très très connecté à ce geste que Manu a fait. Il faut accepter que parfois d'être dans le flou pour que d'autres soient élevés. Il faut accepter que parfois tu vas venir ranger les câbles pour que d'autres chantent. Ce n'est pas parce que tu es en arrière-plan que tu n'es pas dans les plans. Et j'aimerais vraiment qu'on ait ce discernement pour ne jamais mépriser ceux qui sont en arrière-plan. Pour ne jamais mépriser. Cette semaine, on assistait à un théâtre. Il y avait, et vous savez, c'est très rare de voir la personne de la lumière être sur l'estrade. Dans tous les concerts, ceux qui sont à la lumière sont quelque part, même le son. En fait, Jérôme est en train d'inventer. Il y fait le son et il a la tablette. En fait, ça n'existe pas. Ceux qui gèrent le son sont en arrière. Merci Seigneur pour ton cœur. Merci Seigneur, oui, tu vois, c'est... Merci Seigneur pour le cœur de serviteur de Jérôme. Il joue, gère le son. Comprenez ce que je dis. On a besoin de ceux qui rangent les câbles, qui mettent les câbles proprement, pour que d'autres chantent. On a besoin des lumières. On va être honnête. Combien réellement, et d'ailleurs, ça serait bien de l'organiser, que ceux qui entendent, si l'Église entend ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'ils mettent en place. Combien sommes-nous à avoir écrit un mot à l'église CFM de nous mettre à disposition cette salle? En fait, on vient, on fait des choses, on prend pour acquis tout, en fait. Est-ce que spontanément quelqu'un peut se lever, peut lever la main, dire je vais m'en occuper, on va récolter des témoignages, des petits mots, une carte, on va faire une carte. Je ne parle pas aux leaders là, tous ceux qui sont leaders, ne levez pas vos mains. Mais je parle à quelqu'un qui n'est pas leader, qui dit, de l'église, va dire, j'aimerais m'occuper, faire une carte, et chacun va écrire un mot, on va remettre ça à Christian Fondacier pour dire merci parce que vous nous permettez de venir célébrer le roi de rois dans ce lieu. Qui peut le faire? Ok, merci Linda. Merci Marie. Linda et Marie. Allez. Gloire à Dieu. Qui connaît Daniel Nash? J'ai mis une photo. Il travaillait étroitement avec Charles Finet. Et avant que Finet ne prêche dans une ville, Nash allait souvent en avance pour prier intensément pour les réunions à venir. Il passait des heures, voire des jours, à intercéder pour le succès de l'évangélisation, le réveil spirituel des personnes dans les régions où Finet devait prêcher. Beaucoup estiment que l'efficacité du ministère de Finet était directement liée à cet homme qui priait. Il était dans l'ombre. On connaît John Wesley, on ne connaît pas Charles Wesley, on connaît moins Charles, son frère, qui était un compositeur de fou, et un homme de Dieu de qui écoutait et qui accompagnait. Je vous donne ces exemples pratiques juste pour que, qu'on dise, mais est-ce qu'on est prêt en tant qu'église? Excusez-moi, je sais que j'ai explosé l'heure, je l'assume. Est-ce qu'en tant qu'église, on peut juste dire, mais j'accepte d'être dans l'ombre? C'est un message prophétique pour toute cette année. Cette année, il y en a qui seront encore dans l'ombre. Il y en a qui se disent, ah, enfin l'heure de la gloire arrive. Peut-être que Dieu va te maintenir encore dans l'ombre. Mais comprends ce que Dieu est en train de faire. Comprends ce que Dieu est en train de faire. Comprends ce que Dieu est en train de faire. Le succès aux yeux de Dieu n'est pas ce que tu as accompli. Encore une fois, ce que tu as rendu possible pour les autres. Dernier texte. Vraiment dernier, Luc 22, verset 8. Jésus envoya Pierre, je regarde ton sur ma femme parce que je sais que c'est la limite. Si elle me dit arrête, j'arrête cash. C'est la voix de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Céline quand même qui m'aide? Ouais, parce que nous on est là dans l'esprit, mais on a besoin de quelqu'un dans le naturel. De temps en temps, tu dis non, mais oui, tu es dans l'esprit, mais là on n'arrive plus, là, arrête. Donc de temps en temps, je la regarde, je dis quoi, Céline va dire, bon là je comprends. Ok, donc elle m'a pas encore fait ça, je continue. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparons? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Pourquoi ce texte? Il y a plein de trucs. On a prêché ce texte, on a prêché la Pâque, on a prêché les disciples qui sont allés. Est-ce qu'on accepte juste d'être quelqu'un comme cet homme qui apporte une cruche d'eau? J'aurais pu intituler ce message « Accepte d'être une cruche, d'apporteur de cruche d'eau ». C'était un job réservé aux femmes, en plus. Et là, Jésus dit « Vous allez rencontrer un homme ». Tout est à propos du royaume de Dieu. Et je prie qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, des jeunes qui vont voir Estelle, qui vont voir Fabien, qui s'occupe de la jeunesse en ce moment, et dire ah, « Est-ce que je peux t'aider à être, à apporter des cruches d'eau ?» Je veux impacter, je veux servir. La tâche que Dieu te confie cache une mission cruciale. Ne sous-estime pas son importance en raison de sa simplicité apparente. Ce gars-là préparait la Pâque au même titre que les disciples. Comprenez bien ça. Il a mis à disposition une chambre pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et je prie maintenant que tu puisses recevoir ici l'équipe de musique, de louange peut monter. Tu puisses capter que Dieu fait de toi quelqu'un qui va préparer. J'ai eu tellement d'autres messages et témoignages. Je vais prendre un, pas au hasard, mais je sens que je dois le donner. C'est Stéphanie. Attends, excuse-moi. Toi, tu es un bon. Je me souviens de ce temps de prière que je devais conduire où le doute et le manque d'assurance sont venus contaminer mes pensées. Je me sentais illégitime, pas assez digne pour, vous connaissez, pour être son instrument. À ce moment-là, je voulais juste décliner. La veille, j'ai même dit au Seigneur, je suis vidé, je n'ai plus rien à donner. Période de sécheresse spirituelle, c'était mon ressenti. Au-delà de mes pensées, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Après tout, c'est lui qui fait. Et le Seigneur, dans sa fidélité à sa parole, a agi. Je suis juste allé avec qui j'étais, la force que qu'il me donnait, comme Gédéon, et lui a fait le reste. C'est l'un des temps de prière restés gravés dans mon cœur. Je sais que ce jour-là et le suivant ont été un temps de rafraîchissement pour beaucoup. Malgré son état de sécheresse, elle a dit, je vais préparer le chemin pour d'autres. Je prie que dans ce lieu, qu'il y ait ces hommes et ces femmes, et que si tu ne connais pas Jésus, que ce soit l'occasion aujourd'hui de dire, waouh, ce Jésus peut faire de moi un préparateur, une préparatrice de ouf. C'est Jésus, même ma vie, même mon passé, lui peut faire en sorte que là où je me dis, rien peut se produire devant, mais Jésus me récupère et fait de moi un préparateur, une préparatrice. J'accepte Jésus. Je veux le suivre. Et si tu es chrétien de longue date, peu importe ta saison, dis, oh, je ne sais pas ce qui va se passer cette année scolaire, cette année qu'on marque ici. Et je dis, Yohan Campello, je te dis, peu importe, ah, tu es un préparateur. Qu'il y ait des hommes, des femmes, des Gloria qui disent, je suis une préparatrice. Je prends ma place de préparatrice. Est-ce qu'on peut se lever et dire, et on va prendre ce chant, je crois c'est consécration. Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je veux parler à Domoina, c'est ça Domoina? Ton nom est Domoina. J'entends diamant depuis que tout à l'heure, je ne sais pas si tu aimes les diamants, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que le regard de Dieu est sur ta vie. Tu es comme un diamant entre ses mains. Alors que tu as soif de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu as soif de Dieu. Tu as soif. Ta soif est visible. Ta soif est contaminante. Dieu te dit que tu es un diamant. Et qu'il va se servir de toi. Tu es une préparatrice de ouf. On connaissait les préparatrices en pharmacie. Elle n'est pas la Carole, je crois. Mais on a la préparatrice de ouf. C'est pas mal ça, préparatrice de ouf. Préparatrice de ouf. Dieu veut se servir de toi. Je ne connais pas, en fait, on ne s'est jamais vraiment parlé. Mais je dis, waouh, tu brilles dans le ciel. Tu brilles dans le ciel. Et je te vois comme une étoile qui brille. Tu sais, vous savez quand on est préparateur, notre souffrance, nos défis nous font briller pour que d'autres nous suivent. Et il y en a qui souffrent dans ces lieux. Marie Petrakian, moi je prie que tu te vois comme Dieu puisse te voir. Tu souffres, mais tu brilles. Il y a des mamans qui vont venir te voir un jour. Marie, comment tu as fait? Oh! ça commencera à avoir du sens pour toi. Et là, tu commenceras à témoigner de ta persévérance, de ta fidélité, de ton amour, de ton attachement en tant que maman, en tant que servante de Dieu. Tu es dans ton coin, mais tu brilles. Tu brilles. Aidez-moi à célébrer une préparatrice de ouf aussi. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. L'esprit prophétique est là. Je vais laisser le Saint-Esprit, sinon je vais mettre à prophétiser. Ce n'est pas le but. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est vraiment qu'à travers ce chant, plusieurs ont besoin de renouveler. Vous savez, je prépare un message, ça me prend un mois. En octobre, je vais l'apporter sur l'enfantement. Le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et il y a l'enfantement. Et aujourd'hui, ça peut être un acte prophétique de dire, je vais annoncer que cette année sera différente. Et je me consacre à toi. Je ne comprends pas, je viens là devant. Je ne sais pas si je priais pour vous, je ne sais pas si je prophétisais, mais vous le faites pour Dieu. J'aimerais vraiment vous défier pour ceux qui disent, j'ai compris que peu importe ma saison, je vais être un préparateur, une préparatrice. Reconsacrez-vous à Dieu, que ce lieu soit mouillé de larmes de consécration, des cœurs qui pleurent devant Dieu et qui crient à Dieu. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, venez à genoux. Si vous ne savez pas ce qui se passe, venez. Dieu va faire le reste.